Pionnier dans le développement du droit de la santé, l'Institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel fête son 20e anniversaire. C'est l'occasion de nous intéresser à l'évolution du droit des patients avec vous, Dominique Sprimont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de cet institut de droit de la santé de l'Université de Neuchâtel et depuis une dizaine d'années, nous collaborons avec votre institut dans le cadre de notre FAQ Santé, la foire aux questions sur la santé disponible en tout temps sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, même si tout le monde la connaît, rts.ch/on en parle. Alors peut-être une première question d'entrée de jeu. Il y a 20 ans, le droit des patients existait déjà?
Alors bien sûr, ces droits existaient, ils étaient garantis par les grands principes de notre législation, les droits de la personnalité, les droits constitutionnels, mais on en parlait beaucoup moins, on en parlait peu, c'était plutôt des problèmes qui étaient concentrés sur les hôpitaux. Quand on en parlait, c'était aussi plutôt en relation avec des erreurs médicales, des cas particulièrement flagrants, où là c'était repris dans la presse, mais on n'en parlait pas comme aujourd'hui de manière préventive et constructive.
Qu'est-ce qui a permis alors l'émergence d'un véritable droit du patient ?
Alors je crois que les premiers qui ont vraiment fait bouger les choses, ce sont les patients eux-mêmes. Il y a eu toute une série d'arrêts du tribunal fédéral et notamment d'arrêt du tribunal administratif genevois dû à une association de patients extrêmement active. Alors il y a certains de ces patients qui sont aujourd'hui des figures publiques dans le domaine, notamment M. Himmelberger qui a fait l'objet de toute une série d'arrêts du tribunal fédéral et qui a fait bouger les choses. À partir de cette jurisprudence, les lois cantonales les ont intégrées petit à petit avec le pionnier, c'était le canton de Vaud en 85. Genève a suivi très rapidement, fin des années 80. Et puis tous les autres cantons romands ont suivi.
Alors, et le rôle de votre institut, l'IDS, quel rôle a-t-il vraiment joué ? Parce que si on comprend bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment un droit des patients en tant que tel.
Alors, les droits des patients ont été intégrés petit à petit dans les législations cantonales romandes. Et l'Institut de droit de la santé, durant cette période-là, a été systématiquement mandaté par les autorités pour accompagner ces projets. Donc, quelque part, c'est vrai que nous avons eu la chance et le privilège de pouvoir conseiller les autorités cantonales dans ce processus et apporter notre modeste compétence par rapport à ces aspects de droit des patients qui maintenant sont intégrés dans le droit fédéral.
Donc, ça voulait dire effectivement convaincre les gens que ça existe en tant que droit constitué, quoi.
Alors, oui et non, il n'y avait pas un très gros travail de conviction à faire. Je pense qu'au niveau politique, il y avait une prise de conscience, qu'il y avait une nécessité de régler ces questions, d'autant plus que si les droits des patients sont respectés, en fait, les professionnels eux-mêmes sont aussi plus sereins dans leurs activités, chacun connaît mieux son rôle, et donc je pense que du point de vue de la gestion des relations patients-médecins, la consécration des droits des patients a été aussi un facteur positif.
Dominique Sprimont, vous l'avez dit, les cantons romands ont été pionniers dans ce domaine. Et en Suisse alémanique, alors, les cantons alémaniques n'ont pas suivi ? Ou alors, plus tardivement ?
On dira plus tardivement. Alors, je trouve assez ironique qu'à Zurich, en 2005, ils ont leur loi sur les droits des patients qui est entrée en vigueur et ils ont annoncé de manière tonitruante dans la NZZ et d'autres journaux alémaniques que c'était la première loi en Suisse qui traitait les droits des patients. Alors, il y avait soit un problème d'amnésie, soit un problème d'optique, mais c'est assez fréquent, je crois que...
À quel moment ils l'ont annoncé ?
En 2005. Donc,
ah oui.
20 ans après la loi vaudoise. Oui, ils ont un petit peu pris leur temps. Et je pense que les débats actuels qui touchent la tragédie de Genève, où on essaie de mettre dos à dos alémanique et germanophone et francophone, est un peu stérile dans ce domaine.
Et il n'a pas lieu d'être, en fait, justement.
Tout à fait. Elle n'a pas lieu d'être. On a les mêmes droits dans toute la Suisse et c'est une bonne chose.
Alors revenons au canton roman, Dominique Sprimont. Sur quels aspects portaient ces premiers articles de loi ?
Alors, les règles principales qui ont été introduites dans le droit cantonal portaient sur le consentement des patients, consentement libre et éclairé des patients, et donc de manière connexe le droit à l'information des patients et sur également leur droit au respect de la sphère privée, de la confidentialité. Donc ce sont les deux piliers sur lesquels se sont construits ensuite le reste des droits des patients tels qu'on les connaît.
Mmh. Droit à l'information des patients, on sous-entend aussi la relation entre médecin et patient.
Tout à fait. Alors, l'idée de base, je pense qu'il y a 30, 40 ans, ce qui prédominait dans la relation patient-médecin, c'était plutôt une approche paternaliste où le bon médecin expliquait à ses patients quel traitement il devait prendre sans trop lui donner d'explications.
Lui seul détenait le savoir, en fait.
Exactement.
Et du haut en savoir, il y avait vraiment une vision très, très, de haut en bas.
Exactement, ou peut-être pas aussi hiérarchique, mais plutôt paternaliste. Hein. Il y a de la bienveillance quand même dans l'approche du médecin, mais même si cette bienveillance n'a heureusement pas disparu, elle est aujourd'hui teintée d'un respect mutuel où on va reconnaître la capacité du patient de prendre lui-même les décisions qui le concernent, puisque c'est le premier concerné. Donc l'introduction du droit à l'information et de la règle consentement libre, expressé et éclairé a modifié cette relation patient-médecin en rétablissant un peu l'égalité entre les deux partenaires.
On va d'ailleurs aujourd'hui plus parler d'un partenariat, d'un véritable partenariat entre les deux acteurs.
Je crois, alors ça c'est intéressant, dans les 10 dernières années on parle beaucoup de patient empowerment, on va donner le pouvoir aux patients. Tout récemment, la théorie est en train de changer parce que si on parle de donner le pouvoir aux patients, il y a encore quelqu'un qui donne ce pouvoir. Hein, il y a quand même un rapport de force ou en tout cas un rapport de pouvoir entre les deux. Aujourd'hui, on parle d'émancipation des parents, des patients. Ce sont les patients eux-mêmes qui disent ben, nous avons des droits, nous allons les revendiquer, nous allons les faire valoir, mais de manière respectueuse de nouveau, puisque sans les médecins, les patients ne peuvent pas se faire soigner, sans les soignants, ils ne peuvent pas accéder à des soins de qualité. Donc c'est très important que ça ne se fasse pas de manière litigieuse, mais de manière harmonieuse.
Avec des patients qui ont de plus en plus accès aux informations médicales, notamment en surfant sur Internet, là aussi, ça change la donne.
Ça change la donne, ça déstabilise les médecins qui doivent répondre à des questions parfois impertinentes, dont ils n'ont pas toujours la réponse, et devoir accepter leurs limites est quelque chose de difficile à gérer, mais ils l'apprennent, hein. Je crois que ça c'est très important. Cette évolution est prise en compte dans la formation des médecins, et je crois qu'aujourd'hui, on sait que le patient va être mieux informé, comme le client de l'avocat va être mieux informé, comme le client de l'architecte va être mieux informé.
Alors, dans quelle direction, ensuite, s'est développé ce droit des patients à partir de ces éléments de base autour de l'information, de la responsabilité partagée ?
Alors, on a affiné notamment la règle du consentement en développant le principe des directives anticipées qui a été inscrit maintenant dans le nouveau droit fédéral entré en vigueur le 1er janvier 2014. On a aussi porté aussi davantage attention aux questions de contention, limiter les risques de placer des patients dans des situations de violence, hein, de contraintes physiques et pharmaceutiques.
Donc et ça, notamment là dans le domaine psychiatrique, de l'hôpital psychiatrique. Ça a pris des années en fait de lutte pour arriver à ces résultats.
Alors, oui, et alors, vous mentionnez le domaine psychiatrique, alors je crois qu'on doit rétablir quelque chose de très important, c'est que le domaine psychiatrique a toujours été très sensible, et peut-être plus sensible à ces questions-là que le domaine somatique, et en ce qui concerne la contention, dans les hôpitaux psychiatriques, on avait déjà anticipé la question bien avant les EMS et bien avant les hôpitaux somatiques. Et je crois que ça, c'est très important à le dire. Le travail a pris du temps, mais je crois, vous posez la question, quelle évolution ? Une grande évolution, c'est qu'aujourd'hui, les droits des patients, l'éthique est enseignée dès les premiers jours de formation de nos futurs médecins, de nos futures infirmières, de nos futurs physiothérapeutes ou dentistes. Et à partir de là, on a affaire à des interlocuteurs qui sont formés, qui sont préparés et qui sont apaisés finalement à ces droits des patients, qui sont moins perçus comme une agression de leur liberté et de leurs compétences professionnelles, mais plutôt comme une base d'un partenariat comme on l'évoquait avant.
C'est devenu une obligation légale ?
C'est une obligation légale, effectivement, hein, dans la loi sur les professions médicales universitaires, les médecins, à la fin de leur formation, doivent démontrer qu'ils ont acquis des compétences en éthique et dans le domaine spécifique des droits des patients. Et je crois que c'est une excellente chose. Cette obligation, elle s'étend aujourd'hui dans d'autres professions de la santé. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir.
Alors, parallèlement au développement de ces droits des patients, des responsabilités ou des devoirs, peut-être aussi du patient, sont aussi apparus ?
Alors là, il faut être prudent. Je crois que la responsabilisation du patient ne se fait pas véritablement sous l'angle juridique. On a bien conscience que le patient est la partie faible, hein, dans la relation et c'est lui qu'on doit protéger. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'attend que le patient prenne davantage de responsabilité dans sa prise en charge. Et c'est une bonne chose dans une large mesure. Ça peut être vécu moins bien par des personnes âgées, par des personnes vulnérables qui souhaiteraient quand même cette approche paternaliste. Donc je crois qu'on doit trouver un bon équilibre. Aujourd'hui, on place les patients devant leurs responsabilités par rapport à leur comportement, hein. On pense notamment aux excès d'alcool ou au tabagisme, etc. Là, il y a des campagnes assez fortes qui sont menées aussi par les médecins dans leur rapport régulier avec leurs patients. Mais d'un autre côté, le patient reste la partie faible et c'est davantage lui qui est victime de la relation que l'inverse.
Dominique Strumont, et à l'avenir, comment va encore évoluer ce droit, à votre avis ? Quels sont peut-être les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain ?
Alors, moi, j'arrête pas, ça fait 20 ans qu'on y travaille à l'Institut, de m'interroger, et c'est vraiment un mystère pour moi. Comment ça se fait alors qu'on dispose de ces principes, qu'on connaît les règles et on sait comment finalement mener une communication qui soit respectueuse des uns et des autres. Les médecins sont formés à la psychologie médicale et de la communication. On n'arrive pas encore à entièrement intégrer ces droits dans la pratique. Et ça, c'est le vrai défi. C'est que on ne voit plus seulement ces droits comme un élément qui est donné de l'extérieur par la loi, par l'État, mais qu'on intègre véritablement dans l'éthique professionnelle et dans l'éthique des patients. Et je crois que là, je pense et j'en suis convaincu qu'à l'avenir, nous allons vers une plus grande communication, un plus grand dialogue, un renforcement des associations de droits des patients, mais aussi avec une meilleure compréhension de ce que les médecins et que les professionnels de la santé eux-mêmes peuvent apporter. C'est pas tellement dans la production de nouveaux droits, le droit maintenant je pense est relativement complet en la matière, mais plutôt dans sa mise en œuvre qu'on va voir les progrès les plus intéressants.
Donc la formation ne suffit pas ? Il faut davantage de communication, de relations.
Alors, la formation, c'est la base, elle est absolument indispensable, mais on doit passer à un stade ultérieur, un stade supérieur, qui est une communication au niveau des associations, au niveau politique aussi, de mieux comprendre les enjeux, plutôt que, c'est fait malheureusement très souvent, et c'est la contre que l'Institut travaille, de manière confrontationnelle ou conflictuelle. La base d'une bonne relation implique un respect mutuel, une compréhension l'un de l'autre. Et là, il y a un gros travail de communication à faire qui ne peut pas se faire sans de la bonne volonté des deux côtés.
Dominique Strumont, merci beaucoup de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut Droit de la Santé à l'Université de Neuchâtel. Alors, vous fêtez les 20 ans de cet institut. De quelle manière ?
Alors, on a le plaisir de faire ce soir une conférence publique qui va se tenir à l'Aula des Jeunes Rives à Neuchâtel, où Marcel Tanner, qui est le directeur du Swiss Tropical and Public Health Institute, qui est une des sommités mondiales en matière de santé publique, qui va nous parler des défis actuels de la santé publique, et Laurent Courte, notre nouveau conseiller d'État en charge du département des finances et de la santé, va lui répondre par rapport au système de santé suisse. Je pense que ce sera aussi intéressant de l'entendre sur ses 100 premiers jours à la tête de son département. Et donc, vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés à l'Aula des Jeunes Rives à Neuchâtel ce soir à 17h. Vous serez les bienvenus.
Le rendez-vous est noté pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus justement sur les défis actuels de la santé publique. Merci beaucoup Dominique Strumont. À bientôt,
à
et je vous souhaite une très belle journée et puis alors un bon colloque.
Merci beaucoup, belle journée à vous.